France Culture.
Sur la berge, un corbeau tirait consciencieusement sur les entrailles du rat. Olivier Sieschewski. Le dieu ne parle ni ne cache, il fait signe. Héraclite, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui recevra en ce samedi pour le Livre des prodiges, son second roman Rouergue, le romancier, scénariste et cinéaste Olivier Sieschewski. 2 ans après Feu dans la plaine, qui narrait entre western et thriller rural la retraite épique d'un ancien militaire en zone montagneuse, Olivier Sieschewski nous offre avec le Livre des prodiges un thriller apocalyptique aux marges de Paris, monde où se mêlent traite d'humains, mystique, magie, ultra-violence et corruption. Chronique en second temps d'émission, signée Élise Lépine, Esther Teilhard et Fleur Hopkins-Lauferon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, un mauvais genre noir à souhait, comme on les aime, mais parcouru d'éclairs de lumière, lumière naturelle et lumière surnaturelle ce soir, grâce à vous Olivier Sieschewski, bonsoir.
Bonsoir.
Avec ce livre des prodiges, qui est un livre qui emprunte à énormément de domaines, à la fois le thriller... social, il y a la banlieue, à la prostitution, en même temps il y a des pratiques magiques africaines, il y a un peu de mystique chrétienne, il y a une vision de Paris qui est à la fois au ras du bitume et en même temps assez aérienne, là il y a tout, on peut dire que vous êtes la grande conflagration.
Oui, c'est vrai, c'est pas prémédité, mais c'est vrai qu'il y a une base qui est presque conforme à ce qu'est le roman noir, c'est-à-dire l'urbain, le nocturne, la corruption, un regard plutôt pessimiste sur le monde tel qu'il va. Mais il y a d'autres éléments étrangers qui viennent, ensemencer.
Alors, c'est pas parasiter, c'est enrichir et en même temps perturber, je vais dire, les codes un peu ronron.
Oui, c'est ça. Il y a d'autres genres qui viennent métisser le roman noir. Le thriller et peut-être un peu de réalisme magique aussi.
Parfait, bah tout ce qu'on aime à mauvais genre. Vous êtes donc le bienvenu dans cette émission de Perdu. Bonsoir Élise Lépine.
Bonsoir François Angelier.
Alors, Élise Lépine, on peut déjà annoncer, puisque la chose est publique, qu'en janvier se passe un grand événement.
Bon, alors, pour moi, oui.
Et pour les lecteurs.
Voilà, les courants d'arrachement, mon courant premier d'arrachement, roman. Voilà. Chez Grasset.
Très bien.
Le 14 janvier et non pas février.
14 janvier, quelque chose me dit qu'on en reparlera. Fleur Hopkins-Lauferon, le 14 janvier, vous publiez quoi, vous ?
Début janvier, un essai sur la dark romance, un guide amoureux qui défend le phénomène littéraire. Et puis un essai à quatre mains avec Morgane Cossérieux autour du body horror, plutôt fin janvier.
Alors ça, nous en parlerons également. Et puis pour reparler du deuxième roman d'Esther Teilhard, il faudra peut-être un peu attendre encore.
Il faut attendre. En janvier, je ne fais rien, je m'encroûte dans l'hiver. Et je sombre et j'attends que le soleil revienne.
Très bien, bon, l'hibernation donc. Mais comme vous voyez, chers auditeurs, mauvais genre, c'est plus qu'une émission de radio, c'est aussi... une école littéraire, et on vous tient au courant au fur et à mesure de ce qui s'y passe. Mais c'est également une école sonore, sonique, hyper sonore, hypersonique. Et Laurent Polleret est allé pour nous ce soir rôder dans les marges infernales de la ville. Voilà, Laurent Polleret est allé de nuit à Gennevilliers, enregistrer le moteur des péniches qui passaient par là. C'est vrai que ça, c'est un des sons, une basse. Alors, il y a ce que vous dites en mélodie baroque, en musique baroque, la basse continue de votre roman, Olivier Sechelski, c'est ça, c'est le bruit, le moteur des péniches, les voitures qui passent dans la nuit comme des insectes, zoom, là, les cris.
C'est le silence de la ville qui n'existe pas en réalité, qui a toujours en effet une basse continue, des moteurs, des rumeurs lointaines, non identifiables, qui résonnent sur les murs, sous les ponts, et puis des bruits un peu souterrains. Le livre est assez, je m'en suis aperçu après coup, fasciné, si je peux dire, par la dialectique surface-profondeur. Il y a des choses en surface, il y a le monde tel qu'on le vit au quotidien, les yeux rivés sur nos téléphones ou l'esprit fixé sur ce qu'on a à faire dans la journée, et puis il y a tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire à la fois le passé, un passé parfois lointain, les entrailles de la ville, ses tunnels, ses canalisations, tout ce qu'on ne voit pas, et ça c'est assez fascinant pour moi.
Alors, Élise Lépine, Olivier Sechelski, on le connaissait avant pour un autre roman, Feu dans la plaine, qui est à peu près le contraire de celui-ci, quoique, que Livre des prodiges. Alors, présentation de notre invité. Là.
Alors, Olivier Sechelski, j'étais sûre que j'allais donc échouer à cette prononciation, désolée. Sechelski. Qui est déjà proche de l'écriture aussi en dehors du roman, puisque vous êtes vous exercez le métier de scénariste, script doctor, que vous enseignez aussi le scénario à l'ESRA à Paris, et que vous avez réalisé 3 documentaires pour France Culture. Et vous avez publié donc en 2023 Feu dans la plaine, et puis en 2025, donc cette année, Le Livre des prodiges. Le Livre des prodiges qui est un roman, effectivement, et ce sera ma première question après la présentation, qui nous emmène à l'autre bout du spectre de Feu dans la plaine, puisqu'on était dans du nature writing, du western rural, et que là on se retrouve en pleine ville. Alors on est à Gennevilliers, en banlieue parisienne, et au tout début du roman, une équipe de la police est dépêchée au port de Gennevilliers, puisqu'on retrouve un conteneur immergé dans lequel se trouvent des corps de migrantes, et une policière, Nora, qui est jeune, se lance dans l'enquête. Elle va au début du livre tomber à l'eau et être sauvée par une femme qui boite, qui a une béquille et qui va s'échapper, mais elle va poursuivre dans son sillage, et elle va, grâce à cette femme, remonter le fil d'une enquête qui, comme on le disait au début, peut sembler assez classique, c'est-à-dire qu'on est sur des histoires de trafic d'êtres humains, de prostitution, et puis qui va aussi prendre une dimension beaucoup plus fantastique et mystique, puisque Nora, dans l'eau, est mordue par un serpent, et qu'à partir de là, cette catholique fervente, qui par ailleurs dans son commissariat souffre à la fois de sexisme, de racisme, et d'une impossibilité de crever le plafond de verre pour exercer son métier comme elle le voudrait, et selon les principes moraux qui sont les siens, qui sont guidés par la flamme religieuse qui l'habite, eh bien, elle va se retrouver dotée de pouvoirs suite à cette morsure de serpent un peu incroyable. Alors, peut-être que c'est dans sa tête, peut-être qu'effectivement quelque chose s'agite qui est de l'ordre plutôt du surnaturel et du spirituel. Moi, j'ai trouvé très intéressant ce mélange, et puis cette promenade que vous faites. Effectivement, on peut penser à des esthétiques, même cinématographiques, comme Stranger Things ou Silent Hill, avec deux mondes qui cohabitent, d'un côté le monde très réel de l'enquête policière, de l'autre le monde très angoissant et démoniaque d'une espèce de monde parallèle où le mal qu'exercent les hommes sur leurs congénères prend une forme presque palpable. Et donc on va se retrouver aussi du côté de ces proxénètes dans des histoires de juju africains et des pratiques spirituelles qui, elles, viennent plus d'Afrique et sont utilisées pour maintenir les femmes prisonnières du réseau sous scellés ou sous les verrous. Donc ma première question concerne ce virage à 180 degrés que vous avez fait, puisqu'on passe vraiment des montagnes, du monde sauvage et du nature writing, on l'a beaucoup dit pour votre premier roman, à quelque chose de très urbain, de très âpre, de très sombre. On a l'impression d'être tout le temps dans un univers à la fois un peu aquatique, poisseux et très citadin. Et presque toujours la nuit. Enfin, moi, ce roman, quand j'y repense, j'ai l'impression qu'il pleut et qu'il fait nuit. Il a vraiment, c'est un roman d'atmosphère aussi. Et on n'est, voilà, absolument pas dans la même vibration, même si les thématiques sociales et la colère sociale sont là. Qu'est-ce qui a motivé, vous disiez que vous n'aviez pas prémédité votre coup, mais qu'est-ce qui a motivé quand même ce changement de ton et d'univers romanesque ?
Olivier ? Peut-être dans un premier temps le plaisir et le désir de faire quelque chose de complètement différent, tout simplement. Moi, je pense, en effet, il y a, c'est un petit peu la médaille et son revers. C'est un personnage masculin dans Feu dans la plaine, un personnage féminin dans le second, la nature sauvage dans l'un, la ville dans l'autre. En réalité, le point commun, il est peut-être, vous l'avez peut-être prononcé, le mot, c'est la colère. C'est deux personnages qui sont habités par une colère qui est sourde, qui est plutôt enfouie, en tout cas au départ, qui est même, il y a même trois couvercles dessus. Dans le cas de Nora, elle a une espèce de cuirasse extrêmement forte, un surmoi monumental qui est fait de morale, de sens du devoir, d'idéal presque. C'est quelqu'un qui rêverait d'être une sainte ou une martyre, en fait. Donc, qui ne s'autorise aucun débordement. Et comme toujours, quand la cuirasse se fend avec ce genre de personnage, c'est pour laisser émerger des choses qui ont été refoulées, réprimées, et qui rejaillissent avec d'autant plus de violence. Donc, et puis le point commun entre ces deux livres, alors je sais que vous m'interrogez sur les différences et je vous réponds sur les points communs, mais...
Vous êtes libre.
Ce sont deux endroits que je connais, et c'est beaucoup plus facile pour moi, qui est... J'ai relativement peu d'imagination et c'est à la fois une facilité et un plaisir de pouvoir se promener dans les décors de son livre, d'aller vérifier par soi-même si telle rue était en sens interdit ou pas. Et puis se promener d'ailleurs dans le port de Gennevilliers, c'est une vraie expérience. Hein. C'est un lieu qui, en soi, est presque on dirait un décor, on dirait Cinecittà en fait. On dirait un décor vide dans lequel on pourrait inscrire des histoires.
J'ai assez peu d'imagination, c'est une phrase que je ne m'attendais pas à vous entendre prononcer après la lecture d'un tel roman, Olivier Chesselski.
Ben, tout est vrai dans le roman, en fait. Si vous suivez vos personnages avec sincérité, et sans trop vous brider, sans trop vous demander ce que les gens vont penser, est-ce qu'ils vont vous prendre pour un fou, finalement... Non, alors, il faudrait se poser la question de ce qu'on appelle l'imagination, en fait. Mais en tout cas, il y a des images, ça c'est sûr.
Et pourtant, Olivier Sieschensky, on dit Asphalt Jungle, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée que cet univers artificiel, de main d'homme et de folie d'homme, finit par prendre des allures de carrément de désert, de montagne, de lieux naturels. Vous avez quand même aussi une approche, je dirais... comment dirais-je, presque paysagère, ça c'est évident, et en même temps d'explorateur de tous ces endroits, puisque effectivement vous alliez vous promener pour vérifier les choses, mais il y a aussi un rapport au paysage qui est le même qu'on soit dans les Causses ou qu'on soit à Gennevilliers.
Oui, c'est vrai, je pense que dans une histoire, la plupart du temps, l'environnement physique, la topographie, l'environnement urbain, ce sont des reflets de l'âme du personnage. Donc, il est important à la fois d'inscrire, je pense, l'intrigue dans des lieux à la fois, en tout cas pour moi, hein, très précis, d'utiliser au mieux tous les recoins, les souterrains, les cul-de-sac de la ville, et de transformer progressivement cette géographie plutôt réaliste en un univers un peu fantasmagorique, c'est-à-dire que, et ça c'est souvent la nuit qui permet ça. Alors c'est amusant parce que il pleut pas tant que ça, en fait il pleut beaucoup à la
moi,
fin.
Moi j'ai senti la pluie.
Il pleut vraiment énormément à la fin, mais il pleut pas dans la grande partie du livre, mais c'est en soi un endroit intéressant Gennevilliers, parce que c'est une ville extrêmement urbanisée qui a été très industrielle. Qui est la ville probablement la plus populaire de France. C'est la ville où la proportion de HLM est la plus importante. Et elle est donc très bétonnée et en même temps encerclée par la Seine, qui est certes un fleuve domestiqué, un fleuve qui sert au transport de marchandises notamment, mais qui porte quand même le souvenir du fleuve sauvage qu'il a été. Et ça m'intéressait énormément. Donc j'ai essayé de retrouver un petit peu de paysage naturel au sein de la ville.
La région parisienne entoure la capitale comme un placenta. La ville dit intramuros s'est nettement délimitée, non par des fortifications depuis longtemps démantelées, mais par un boulevard circulaire où les voitures tournent 24 heures sur 24, comme des faux VBT dans un enclos trop étroit. Pourtant, le périphérique n'est pas clos. Les 38 portes de la ville permettent un échange constant entre le centre et la banlieue. Fini les remparts, leurs gardes et leurs péages. Le trafic a remplacé l'obstacle. Rien ne doit entraver la circulation des biens et des personnes. Le centre de Paris est irrigué par un fleuve, des dizaines de voies ferrées, 6 autoroutes et une myriade de voies secondaires. Autant de vaisseaux qui font palpiter le cœur de la ville au rythme du travail des hommes et du flux des marchandises. Une grande partie de ces biens transite d'abord par le port autonome de Paris, établi en aval sur la presqu'île de Gennevilliers. Les porte-containers du monde entier déchargent leurs cargaisons au Havre, où les grues les transbordent sur des centaines de péniches et de barges, qui remontent alors le fleuve domestiqué jusqu'à l'une des 6 darses, creusées dans les terres maraîchères de la plaine de Gennevilliers.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Comme quoi, Olivier Sejelski, il suffit de dire les choses pour créer une sorte de rayonnement, comme ça, intense, puissant. Il ne suffit pas à sortir je ne sais trop quel artifice lyrique. Il suffit de dire la réalité des faits. Et c'est aussi terrible que l'affaire que vous racontez.
Oui, c'est amusant que vous disiez ça, parce que je pense qu'un des points de départ de ce livre, c'était l'envie d'un personnage qui porte justement un regard complètement émancipé du langage commun, de l'esprit du temps, un regard décalé, peut-être naïf, en tout cas différent, comme pouvait l'être le regard des persans de Montesquieu, mais, même si elle est très différente, mon personnage. Mais le point de départ, c'est un petit peu l'idée que quand on regarde les choses froidement, on s'aperçoit à quel point elles sont étranges, c'est sûr.
Alors on a le cadre, on a le décor, on a cette espèce de mouvement comme ça organique de la cité, de sa banlieue, des flux et des trafics, et au milieu de tout ça, Élise Lépine, il y a Nora.
Et Nora, moi, ce qui m'intéresse, c'est sa mystique et sa dimension, justement, catholique. Je trouve que dans le roman policier, on a assez peu d'enquêteurs ou d'enquêtrices qui sont animés par la foi et qui sont prêts à appliquer les principes de Jésus-Christ au code pénal ou à la pratique de la justice. Et c'est intéressant, puisqu'on voit que alors que les deux devraient se ressembler, Nora le pense profondément, en fait les deux sont très différents et ça met justement en valeur la dimension, enfin la profonde corruption de... Et en même temps c'est un échec ce projet de Nora, et même s'il n'y avait pas de corruption, etc., c'est impossible d'être Jésus dans la police. Qu'est-ce qui est venu donner l'envie de confronter ces deux univers à la fois très proches et très lointains l'un de l'autre?
Alors là, vous posez la question de comment viennent les idées, donc c'est assez compliqué. Mais comme je le disais, j'avais envie d'un personnage qui ait un regard particulier. Ça aurait pu être un regard fanatique, un regard dérangé, un regard radical. Une des images que j'avais en tête au départ, c'était celle du taxi driver de Scorsese, qui sillonne lui aussi la ville la nuit et qui considère les trottoirs et sa population, leur population, avec un regard de plus en plus fou, en fait. Moi, j'ai choisi quelqu'un qui avait un idéal et qui, en effet, dès le début de l'histoire, est déjà presque dans un état de crise, dans un état de doute, parce que, elle s'aperçoit que, d'une part, dans la police, on arrive toujours trop tard, c'est-à-dire qu'on arrive pour constater le mal que les hommes font aux plus faibles. Son abbé, son curé, qui est sa préférence, son principal interlocuteur, qu'elle consulte quand elle se pose des questions, elle le trouve de moins en moins pertinent, de plus en plus, elle finit par le considérer comme un petit fonctionnaire de la foi, là où elle a des aspirations qui... Elle veut être Saint François, quoi. Elle veut souffrir pour les autres. Et donc il y a un profond décalage entre ce personnage, cette forme d'idéal radical, et la vie telle qu'elle est. Maintenant, comment ce personnage est arrivé dans ma tête, là, c'est un mystère.
Mais la question du procédé est intéressante, c'est-à-dire que le livre est truffé de symboles aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé justement qu'elle soit sous son crucifix, qu'elle ait ses images saintes, et puis qu'en même temps, dans son casier, ses collègues malveillants lui mettent des godemichés géants, et puis qu'ensuite, il y a un serpent qui arrive, et que ce serpent représente à la fois Satan et autre chose. Et puis voilà, il y a beaucoup d'éléments que vous avez imbriqués les uns dans les autres pour ouvrir des brèches dans différentes mystiques et les faire se mélanger un peu comme un chimiste. Donc là, je vous pose la question du procédé et pas du miracle de l'idée qui arrive.
Le procédé, c'est que tous ces éléments se sont mis en place comme par magnétisme, en fait. Et par exemple, effectivement, à partir du moment où on décide que ce personnage a une dimension très religieuse, elle devient pour ses collègues de la police une sorte de curiosité, d'objet de moquerie. Elle fait un peu peur parce qu'on la comprend pas vraiment, on sait pas comment la prendre, en fait. Même quand on se moque d'elle, elle ne réagit pas, donc c'est un problème pour ces hommes-là. Et puis, le serpent, il est très intéressant, il est vraiment très intéressant parce que ça va bien au-delà du serpent du Jardin d'Éden, en réalité. Quand on commence à s'y intéresser, on s'aperçoit que d'abord c'est une figure qui est présente sur tous les continents, dans des croyances innombrables, du serpent à plumes jusqu'à Mamiwata en Afrique de l'Ouest, où il y a des serpents en Inde. Et c'est un animal qui est ambivalent, d'une part, qui représente à la fois dont le venin peut permettre de fabriquer des remèdes, mais peut tuer également. Et puis c'est l'image même de ce qui est, en fait, de tout ce que Nora refoule, le serpent. De même qu'on dit le cerveau reptilien, le serpent, c'est par opposition à l'homme qui est supposé être l'aboutissement de la création, le serpent, c'est l'inverse. Il n'a pas de membres, il n'a pas de plumes, il n'a pas de poils, il n'a pas de griffes. C'est le primitif. Et donc, le serpent, c'est vraiment les forces souterraines que Nora a toujours contenues, a toujours niées, en fait, a toujours refoulées. Et que cette histoire va faire remonter à la surface progressivement.
Flore Hopkins.
Nora, c'est surtout une femme qui est en crise de foi, vous l'avez dit, en crise morale, et qui va chercher des signes de Dieu. Et il m'a semblé que l'écriture, parfois cryptique, que vous adoptez, va chercher aussi une forme d'infraordinaire, comme si vous aussi, vous essayez de voir peut-être des signes, des choses qu'on ne regarde pas suffisamment, qui touchent au banal. Je pense à des pleines pages où vous décrivez les containers, ce qu'ils contiennent, les accessoires made in China, où vous essayez de tout cataloguer, de tout répertorier, comme si vous aussi, vous cherchiez les signes. Est-ce que ça a été quelque chose de conscient de votre part, d'adapter l'écriture du roman à cette quête éperdue de Nora pour trouver la présence de Dieu dans un paysage qui ne s'y prête pas tout à fait ?
C'est pas complètement conscient, mais c'est naturel. Effectivement, à partir du moment où le personnage de Nora espère un signe, elle regarde tout en se disant que ça peut être un signe. Un peu comme dans les légendes où on se dit que le mendiant qui passe est peut-être un roi et que donc elle va regarder. Pour elle, faire une patrouille, c'est pas simplement surveiller, c'est guetter un signe. Donc, je trouve que ça rend le quotidien, la ville qu'on peut considérer comme laide, ordinaire, bah, ça la rend magique, en fait, de la considérer de cette façon-là. Maintenant, dans l'écriture, je ne sais pas ce qu'elle a de cryptique, cette écriture.
C'est que moi-même, en tant que lectrice, j'ai cherché des signes dans l'écriture. Quand il y avait des très longues énumérations ou des phrases qui parfois prenaient une à deux pages, j'ai essayé de voir si justement vous mettiez un indice qui allait mener Nora un petit peu plus loin dans son enquête. Parce que nous-mêmes, on est éperdus comme elle et on cherche du sens à cette mystique contre laquelle au début on se heurte, à cette morsure mystérieuse qu'elle porte et justement le sens qu'elle essaye d'y donner, Nora.
Bon, il y a des signes un peu partout, oui. Donc c'est très bien, ça rend le lecteur et la lectrice actifs, c'est fabuleux.
Je dirais même qu'on s'interroge sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous écrivez, parce que moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà dit, mais cette rencontre entre le policier, le roman policier classique, carré, trafic d'êtres humains, hiérarchie plus ou moins fiable, etc. Et en même temps, cette irruption non seulement du catholicisme, mais du serpent, du joujou, et puis finalement de super-pouvoirs. On est aussi dans un roman de presque de super-héroïne, quoi. Et quand vous écrivez, on sent l'écriture se dilater un peu au fil de cette ambiance-là. C'est-à-dire que parfois, vous faites progresser l'enquête, on voit l'écrivain de roman policier et le scénariste qui tire les ficelles et qui met en place les différents éléments de l'intrigue. Et parfois, on vous sent vous projeter vous-même et ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus que d'écrivez fleurs, c'est-à-dire voilà, des pages où vous êtes vous-même un peu hypnotisé par l'histoire que vous racontez. Est-ce que vous êtes passé par différents états ? Est-ce que vous avez écrit certains chapitres dans certains états et d'autres dans un autre ? Dites-nous un peu.
C'est tout la difficulté de l'écriture. C'est qu'elle doit marcher sur deux jambes. Elle doit marcher. D'une part, c'est Borges qui disait l'art, c'est le feu plus l'algèbre. Donc il y a le feu, il y a l'intuition, il y a les tripes, le rythme de la phrase, il y a l'inconscient, il y a ce qui vient des cauchemars, il y a tout ça. Et puis il faut bien architecturer tout ça. Il faut construire, il faut organiser, il faut avoir un esprit parfois de joueur d'échecs. C'est très compliqué d'avoir les deux qualités en même temps. Et c'est pour ça que vous avez senti qu'il y avait ces deux aspects. Pour moi, en fait, l'intrigue, alors c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que c'est un outil pour entraîner le lecteur et la lectrice à l'intérieur de ce monde-là et surtout pour lui permettre de découvrir le personnage. J'en ai besoin parce que j'ai envie que les lecteurs tournent les pages. J'ai envie de ce plaisir qu'on a enfant quand on veut lire encore un chapitre et qu'il y a cette dynamique narrative qui nous entraîne et qui nous fait nous coucher tard. Donc j'ai envie de ça. Et en même temps, au moment d'écrire, et notamment au moment d'écrire certaines scènes, il y a la main qui nous entraîne parfois ailleurs. Il y a parfois sur des pages et des pages parce que c'est le rythme en fait qui entraîne parfois les mots et parfois les actions et qui a par moments, oui, des petits moments de transe, on peut le dire.
Thank you.
Olivier Sechelski, on parle de Nora, policière sacrificielle qui est prête à tout donner pour son métier et sauver l'humanité, la pauvre humanité qu'elle croise de jour comme de nuit, avec une dimension de martyr, puisqu'effectivement, il y a ce catholicisme-là qui, évidemment, est géré à la petite semaine par le père, le curé du coin, mais bon, qu'elle, ça, elle demande énormément, elle demande même peut-être trop. Et puis, il y a aussi cette dimension fondamentale du folklore, de la mythologie africaine qui vient là, qui dresse son serpent. Et puis, en face, c'est quand même moins reluisant, nous avons les collègues. Alors là, les collègues, c'est un peu plus compliqué, puisque le chef est une sorte de personnage frontal, muré, pas aimable, qu'elle tente en permanence de déstocker, comme on dit, tauromachie. Bon, et puis ça marche pas. Et puis il y a les deux bourrins, Conrad et Brice, je crois. L'un suit l'autre comme une sorte d'animal de compagnie. Comment fait-on pour générer des personnages qui soient, je dirais, tout de même intéressants ? Parce que là, vous avez un très beau personnage féminin, qui est une espèce de Sainte Thérèse d'Avila, comme ça, bon, à la fois dans l'organisation et dans l'extatique, enfin bon. Mais en face, il faut quand même qu'il y ait une consistance dans tous ces personnages. Il faut qu'ils soient, alors, peut-être en les rendant misérables. C'est peut-être là, la misère peut être une porte de sortie.
C'est une question vraiment difficile parce que a priori j'aurais tendance à dire que tous les personnages doivent être riches, complexes, avoir leurs faiblesses, susciter l'empathie, etc. Et en même temps, je me suis rendu compte que de temps en temps, c'était pas mal d'avoir un vrai mauvais, un vrai bad guy, quelqu'un qu'on ait du plaisir à détester. Déjà lors de l'écriture, ça défoule.
C'est un défouloir.
Oh là là, oui, ça fait vraiment du bien. L'énumération de tout ce que déteste ce Brice, dit le ricaneur, m'a permis de me venger d'un certain nombre de personnes de façon tout à fait honnête.
Certains s'y reconnaissent.
Je ne sais pas s'ils liront le livre. Mais en effet, il y a une... Parfois, on a besoin d'un pôle, et c'était déjà le cas dans Feu dans la plaine, d'une sorte de pôle négatif qui permette de catalyser le personnage principal et peut-être de valoriser aussi, y compris des personnages secondaires, comme celui de William dans le livre,
oui,
par
alors,
contraste.
Je ne l'ai pas cité, mais il y a néanmoins quelqu'un qui échappe à tout ça, c'est William, jeune policier, au passé effectivement douloureux, mais qui est le comparse, donc on peut le dire.
Qui est tiraillé parce qu'il arrive tout juste, donc il doit à la fois s'intégrer à l'espèce de meute des flics du coin, tout en étant assez fasciné par Nora, qu'il ne comprend pas, qui est pas très sympathique avec lui, qui est froide comme une porte de prison. Mais sa curiosité va se muer en empathie de plus en plus. Et c'est un personnage qui est... alors, il est très costaud. En fait, il va à la salle parce qu'il est complexé. Il est très costaud, mais très timide. Donc, c'est une espèce de... Il pourrait être c'est comme un petit garçon timide dans un corps de bourrin, en fait. C'est ce qui m'intéressait avec ce personnage. Et il est lui-même assez tourmenté.
Parce que ces personnages, il faut quand même qu'ils évoluent un peu. Si vous avez un crétin massif, brut de décoffrage, qui est le même page 10 que page 350, bon, fini. La première fois, on le trouve marrant. La deuxième, bon, mais il faut quand même qu'il se passe des choses. Enfin, il faut qu'il se manifeste par soit des actions épouvantables, soit brusquement une évolution. Là, c'est aussi ces personnages doivent se révéler autre chose que ce qu'ils sont au début.
Pour le coup, c'est... Nora est très utile pour ça, parce qu'elle-même parcourt un trajet qui est assez radical. Et donc, dans son sillage, les autres personnages doivent prendre parti, doivent réagir, doivent agir contre elle ou devenir ses alliés. Donc, un personnage aussi fort qu'elle permet presque sans effort, en fait, de faire évoluer les personnages secondaires. Même si, encore une fois... Les vrais méchants, le reste ont jusqu'au bout. Simplement, on les découvre encore plus sombres qu'ils n'étaient.
Et puis, Élise Lépine, il y a le monde de la nuit, c'est-à-dire le monde de la prostitution. Et là, on entre dans un...
un autre mode d'existence, on est dans un autre enfer.
Et là, on est dans le vortex de la toxicité masculine aussi dans ce livre, c'est-à-dire les 1000 visages de la domination masculine et des dégâts commis par les hommes sur les femmes, avec d'autres énumérations, notamment de prostituées qui déclinent comme ça les horreurs subies et le dégoût ressenti. Enfin, vous êtes aussi allé soulever un pan d'histoire sociologique et sociale et de révolte aussi, c'est-à-dire dans cette exploitation qui passe par différents biais, c'est-à-dire d'une part la mise sous clé des vies des femmes, mais à la fois physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement, puisqu'on leur dit que leur âme est prisonnière de petites poupées vaudou et que si elles essayent de s'en aller, avec en fait sous la forme de leur passeport, mais que si elles essayent de partir, elles seront punies et poursuivies par cette. Et il y a toujours cette ambivalence chez vous entre conte ou réalité. J'ai trouvé ça très intéressant. Comment vous êtes renseigné d'ailleurs sur ce monde-là, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui existe.
Oui, et qui est relativement bien documenté, parce qu'il y a beaucoup de rescapés qui ont témoigné, qui ont toutes à peu près le même témoignage. Donc là, c'est vraiment... Alors, généralement, ce sont des filières nigérianes. Moi, j'ai déplacé... voilà. Moi, je pars toujours de quelque chose qui est vrai et je le transforme. Il y a les associations d'aide aux prostituées ont des publications dans lesquelles on peut lire des témoignages. Après, en dehors de la recherche, il y a un phénomène qui est assez étonnant dans l'écriture, c'est que si on parvient à se mettre à la place d'un personnage, on peut se rapprocher énormément de ce qu'elle peut ressentir. Même si nos conditions d'existence n'ont rien à voir, même si on est le contraire de ce personnage, il suffit de trouver le noyau, qui est peut-être souvent un noyau émotionnel, qu'on peut avoir de commun avec ce personnage. Par exemple, on parlait de la colère tout à l'heure, mais ça peut être le dégoût. Et aller chercher en soi ce qu'on a de dégoût, ce qu'on a vécu de situations qui ont déclenché un dégoût puissant. Et l'écriture, en fait, se fait presque toute seule. Et le passage auquel vous faites allusion, c'était le passage le plus facile à écrire et qui s'est écrit presque automatiquement.
Mais l'autre nuit, sous l'eau, ses imaginations furent balayées en un éclair. L'éclair de la surprise. Le sol métallique bien ferme sous mes pieds et puis l'absence soudain de sol. La chute en arrière, dos au néant. La chute dont on ignore la mesure. Dans combien de temps mon corps va-t-il rencontrer la matière? Sera-t-elle solide, cette matière? Dure ou malléable? Mortelle ou salvatrice? L'éclair du froid au moment du contact avec l'eau, l'éclair blanc du projecteur et l'éclair de la nuit soudaine, le passage en un instant plus court que la pensée la plus insaisissable, des reflets sur le métal à des ténèbres vagues, les yeux ouverts le plus possible, écarquillés, pour donner une chance aux iris de se dilater, de détecter la plus infime parcelle de lumière, les yeux roulant de droite à gauche, cherchant à distinguer le haut du bas, le ciel gris sale du port du fond inconnu et pour cela terrifiant de la darse. Éclair de douleur aussi, plus long celui-là. Dans le tibia comme une décharge électrique dont l'écho vibrait encore sous l'eau et à la tête un coup venu de nulle part. Éclair de lucidité, comment ai-je pu être assez idiote pour prendre un tel risque? Éclair d'enfance, je vais me faire gronder. Voilà un extrait du livre des prodiges de notre invité ce soir dans Le Mauvais Genre, Olivier Sechelski. C'est un livre où le monde est mesuré par les corps. C'est un livre de la sensation, alors de la perte, de l'acuité, de la violence reçue et donnée. C'est d'abord un livre comme ça, de la matérialité.
Oui, c'est vrai. C'est peut-être un de ces points communs avec Feu dans la plaine, dont le personnage, confronté à la nature sauvage, devait réinvestir en fait tous les sens, les perceptions, les facultés qu'on laisse souvent de côté en sommeil dans la vie quotidienne et qu'il devait apprendre à sentir à nouveau, à percevoir les odeurs, les sons, à les interpréter. Et c'est quelque chose qui est aussi présent dans le livre des prodiges. C'est une dimension très sensorielle, très vibratoire, pour parler comme les gens qui font du développement personnel. Peut-être aussi parce que les serpents entendent grâce aux vibrations qu'ils perçoivent à travers le sol. Et c'est un trait que j'ai donné à Nora de plus en plus à mesure qu'on avance dans le livre. Et ses sens sont de plus en plus aiguisés.
Oui, il y a cette hyperbole de la puissance du corps. C'est-à-dire que là, la lecture se terminait du passage sur l'éclair de l'enfance avec cette femme qui finalement est un peu pétrifiée puis coincée dans un schéma religieux qui l'empêche aussi de s'épanouir ou de trouver sa propre puissance. Et avec cette morsure, quelque chose en elle s'affûte. Et je le disais tout à l'heure, on est dans un motif assez proche du super-héros, enfin de la super-héroïne, d'une forme de pouvoir venue d'ailleurs et de puissance inattendue qui passe par les sens. Ça, justement, quelle portée symbolique ça a pour vous de mettre un tel pouvoir dans une femme qui, au début, n'en a pas?
Alors, le symbole, c'est ce qu'on peut voir après. Au moment de l'écriture, on pense pas, je crois, au symbole. Simplement, il y a quelque chose de, à la fois dans l'écriture et dans la démarche de Nora, qui est de l'ordre de la révolte devant le scandale qu'est la mort, par exemple. Donc si vous êtes révolté par le scandale qu'est la mort, vous voulez ressusciter les morts, et ressusciter les morts, c'est de la magie, c'est parfois de la religion, on peut appeler ça du fantastique. Il était naturel que, ou en tout cas j'avais envie que ces désirs soient des ordres, d'une certaine manière. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas totalement une super-héroïne, même si elle a quand même des facultés particulières. Généralement, ça se passe dans des ellipses. C'est un peu la différence avec les histoires de super-héros, c'est-à-dire qu'un peu comme chez Jacques Tourneur, elle s'aperçoit qu'elle a fait quelque chose. Elle constate qu'elle a accompli un acte violent, mais elle n'en a pas forcément le souvenir. Ce qui la pousse à enquêter quasiment sur elle-même. Qu'est-ce qui m'arrive ? Et ça, c'est un type de fantastique qui m'intéresse beaucoup, oui.
Flore Hopkins.
Oui, on a beaucoup parlé de la matérialité des corps et de la ville vivante. Et ce qui m'a frappé en vous lisant aussi, c'est le recours à ce qu'on appelle les temps profonds. Donc, c'est-à-dire la manière dont on revient au temps minéral, au temps géologique, à la lenteur extrême. Nora nous partage à un moment la manière dont elle aimerait pouvoir s'ouvrir les veines et que son sang revienne quelque part à la scène.
Son sang,
en tout cas,
a marre de tourner.
Voilà,
en
quelque
rond.
Chose de
J'ai
très
noté
tonien.
Aussi.
Et voilà, je me posais la question, qu'est-ce qui vous fascine dans cette extrême lenteur? Parce qu'il y a effectivement des scènes très saisissantes et parfois une extrême lenteur où c'est la pollution des hommes qui va contaminer les poissons. On a les corps humains qui vont redevenir sédiments. Est-ce que vous avez, très volontairement, ou presque inconsciemment, jouer aussi sur des temporalités totalement distendues?
Oui, là, pour le coup, c'est vraiment conscient. Et ça rejoint un petit peu cette espèce de dialectique entre l'ordinaire et le temps très lointain. Le livre s'ouvre sur la découverte, alors qu'on est en train de creuser une fosse pour agrandir le port, sur la découverte d'une peinture rupestre très très ancienne. Et je trouve que, voilà, au quotidien, on a tendance à perdre ce genre de perspective. Et c'est peut-être lié aussi au désir de jouer sur les accélérations et les ralentis, un peu comme peuvent le faire certains animés, par exemple, où vous pouvez avoir un épisode de 20 minutes qui se déroule pendant que le temps qu'une balle sorte d'un canon et atteigne sa cible. Et ça, moi, je trouve ça totalement fascinant d'avoir le pouvoir d'accélérer ou de ralentir le temps dans un livre. Donc c'est ces deux aspects-là, en fait, qui m'ont poussé à travailler dans ce sens-là.
Merci, Olivier Sechelski, d'avoir été notre invité. Je rappelle vos deux livres éditions Rouergue dans la collection Rouergue Noir, Feu dans la plaine. Alors là, on est dans le monde agreste, de la montagne des bois et des roches. Et puis avec le livre des prodiges, votre second roman, on est du côté de Gennevilliers, dans un monde sauvage, une autre jungle, mais cette fois de béton, de métal riveté, et confronté à une autre violence. Et tout cela, évidemment, est vécu et transfiguré par votre héroïne, Nora. Merci à vous.
Merci à vous. I could tell you now, it ain't nothing like before. There ain't fuchsias hanging from my walls. It ain't nothing that you can offer. When I let you lay and lay it out, it ain't nothing I ain't seen go down. You say all your property say, I'll take mine to the grave. Said silence is peace, is probably out there dreaming as big as me. It's probably out there dreaming as big as me. It's probably out there hoping as big as me. It's probably out there praying as long as me. It's probably out there dreaming as big as me.
Alors, on commence avec vous, Esther Teilhard, par un texte bref de Richard Guettet, paru aux éditions L'Esquif, comme un malpropre.
Oui, François, comme un malpropre de Richard Guettet aux toutes nouvelles et audacieuses éditions Esquif. Mauvais genre, que nous raconte cette nouvelle ? L'histoire d'un homme, Gary, qui, suite à une déception amoureuse, se met à ranger frénétiquement son intérieur surchargé. Il y a le salon, enseveli de babioles, la chambre encore froissée par quelques nuits d'amour, la cuisine noyée sous une vaisselle sale, et puis toutes ces choses que nous accumulons, que nous gardons comme des malpropres pour prouver que oui, nous avons vécu une belle vie, une vie à la hauteur. Gary est triste car Rita l'a quitté. Elle était la vie, elle avait une fossette et de très jolis seins. Elle est partie à cause de son bordel, sa chambre jamais rangée, sa cuisine laissée en vrac et son entrée inaccessible. Elle a eu peur, peut-être, de confier son intérieur et son cœur à un petit souillon. Gary est triste, alors Gary range, il met de l'ordre, il répare les dégâts. Mauvais genre, décrivez-moi la gueule de votre piole et je vous dirai qui vous êtes, ou plutôt à quel salopard vous essayez de ressembler. Pardonnez-moi, chers auditeurs, je suis vulgaire, mais j'ai toujours détesté les intérieurs à la hauteur. Ces chambres immaculées qui trahissent des âmes sales. Je vote Gary, je vote Richard Guettet, soit le chaos. Ces pioles qui débordent et qui suintent, qui font peur aux voisins, aux conquêtes, aux parents quand ils vous visitent. Je suis pour redécorer vos chambres à l'image de ce que vous êtes vraiment, des monstres. Je ne rigole pas, vous êtes des monstres et vos murs sont à peindre en noir. S'il vous plaît, laissez tout traîner. Accrochez des posters de Rammstein et de Gilles de Rais au-dessus de votre pieu et roulons-nous dans la poussière. Pourquoi ranger sa piole quand on peut lire et aimer, écrire le soir et le matin? Car il paraît, du moins on me l'a récemment chuchoté, qu'écrire, ce n'est que cela, en fin de compte, déblayer. Alors Gary déblaye, il met de l'ordre, il répare les dégâts. Mais Rita est vraiment partie, et sans Rita, sa fossette et ses jolis seins, les jours sont gris, les nuits sont longues. Il ne reste qu'à trouver quelqu'un d'autre pour faire passer la vie, et tout souiller une nouvelle fois, parce qu'en réalité, l'amour et les corps ne savent faire que cela. Comme un malpropre est une histoire d'amour, de cul et de larmes, une histoire sale, une belle histoire. Richard Guettet, encore une fois, déploie ses ailes et c'est aux éditions Esquif.
Merci Esther. Alors je vais, quant à moi, dire quelques mots d'une autre parution Esquif dans la même collection. C'est la nouvelle de Nicolas Martin, Dans ma maison sous terre. Alors c'est un mixte extrêmement heureux et très bien réalisé entre l'univers de Jules Verne, mais pas le Jules Verne emblématique du Tour du Monde à 80 jours ou de 5 semaines en ballon, mais celui plutôt des Indes Noires qui nous raconte l'histoire d'une famille qui vit dans les profondeurs d'une mine, paraît-il, oubliée dans l'Écosse. Donc il y a tout cet aspect du Verne des Indes Noires. Et puis, comme la magie ctonienne, la magie de la terre intervient, revient, il y a la mutation, c'est-à-dire que les corps se transforment, se minéralisent, enfin qu'il se passe des choses, et ce mixte comme entre Jules Verne et Lovecraft est très bien réalisé, à la fois sur le plan de la narration, des épisodes, sur le plan des personnages, et notamment l'entretien avec un vieux mineur comme ça, qui témoigne de cette espèce d'expérimentation singulière, et puis sur le plan du langage, où il y a à la fois un langage plus technique, et puis un langage, je dirais, un argot de mineur, qui est très bien rendu par Nicolas Martin. C'est aussi dans la collection L'Esquif. On passe maintenant avec vous, Fleur Hopkins, à, ma foi, j'allais dire tout autre chose, mais non, pas vraiment.
Pas si éloigné. Alors, je vais vous faire une confidence, la fantaisie, c'est absolument pas mon genre de prédilection.
Oui, ça m'a surpris.
Et oui, c'est étonnant, mais pourtant, un texte m'a changé. J'ai eu un véritable coup de cœur, et je vais vous en dire un petit peu plus. Il s'agit de la saga des Sentiers des Astres, écrit par Stéphane Plateau. On le retrouve au Diable Vauvert, c'était préalablement publié au Mouton Électrique il y a 10 ans de ça, et on retrouve avec beaucoup de bonheur
André-François Ruraud.
On retrouve Manèche. Alors, qu'est-ce que nous raconte Manèche? C'est vraiment le grand œuvre de Stéphane Plateau. C'est un roman qui est un récit choral. Donc, on va suivre deux récits parallèlement. D'un côté, au présent, des bateliers qui remontent un fleuve dans l'espoir de trouver un oracle qui va peut-être permettre d'arrêter une guerre. Et c'est un barde qui nous rapporte ce récit. Et puis, de l'autre, un récit rétrospectif, un récit des origines qui tourne autour de Manèche, un homme mystérieux, ramassé dans le fleuve, qui a les jambes brisées et qui recèle bien des souvenirs. Alors, je suis sûre que nos auditeurs ont déjà entendu parler de cette grande saga du Sentier des Astres, parce qu'on a beaucoup salué, chez Stéphane Plateau, son art à écrire un système magique, à écrire des syncrétismes religieux. C'est un historien de formation, il va mêler les religions celtes et hindoues, mais chose intéressante, c'est aussi un amateur de jeux de rôle, c'est un rôliste. Et ça se ressent extrêmement bien dans cette saga, puisqu'en fin de compte, moi, ce qui m'a passionné avant tout, c'est sa capacité à nous raconter des histoires et à s'interroger sur comment on raconte des histoires. Il nous dit, par exemple, la parole chantée est plus sûre que l'écriture. Et donc, c'est une saga qui est traversée en permanence par des légendes, des chansons, des comptines, des ritournelles, des poèmes dans lesquels on découvre des divinités qui marchent encore parmi les hommes. Manèche, il est aussi surnommé le bâtard, c'est le fils d'un géant errant solaire surnommé le semeur de feu. On va donc connaître des récits mythologiques, mais surtout des récits des origines, des récits universels autour de l'amitié notamment. Et Stéphane Plateau nous emporte totalement, alors non pas du côté du récit épique, c'est vraiment un récit qui va être introspectif et intime. Et d'ailleurs, il nous dit quelque part dans le roman, c'est une chose difficile de se raconter. Et moi, j'ai envie de lui répondre au contraire, qu'avec cette saga, il nous prouve qu'il est vraiment un barde, un troubadour, un griot. Il nous emporte totalement dans, vous voyez bien, un univers de fantaisie que je n'aurais pas touché d'un bout de bâton et qui là m'a transporté pendant toutes ces pages. Vraiment, j'ai été dans un autre univers totalement. Et je mentionne simplement pour publication, pour ceux qui voudraient se gargariser, voilà, nettoyer leur palais, la publication d'une dark rom-com qui s'appelle Tourist Season, qui fait partie de la saga Seasons of Carnage chez Verso. Et qu'est-ce que c'est une dark rom-com? C'est le téléfilm de l'après-midi avec des meurtres, du sexe, du cannibalisme. Et donc, en fin de compte, c'est très mauvais genre.
Merci, Fleur Hopkins. Élise.
Alors, choisi un roman qui traite d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais que peu de gens connaissent encore. Si je vous dis Galgos, est-ce que ça vous dit quelque
alors,
chose?
Alors, on va faire un tour
François
de table, hein, Galgos.
Non, on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Galgos, quelqu'un connaît Galgos?
Non, Fleur connaît, on en a parlé.
Paul Rem connaît, non, il ne connaît pas Galgos. Donc
vous n'êtes
vous
pas un homme à chien, François, puisque les Galgos, ce sont des chiens, ce sont des lévriers. Vous savez, c'est ces chiens très maigres et très élégants qui courent très vite. On les appelle les Galgos en Espagne. Et il faut savoir que dans certaines régions du sud de l'Espagne, il existe une vieille tradition de chasse qui consiste à les massacrer ou à les maltraiter ou à les abandonner à la fin de la saison de la chasse en février, notamment quand ils n'ont pas bien chassé parce qu'ils auraient déshonoré leur maître et donc on les torture, on les découpe, on les pend, on les traîne derrière des voitures, etc., etc. C'est un sujet qui, moi, me touche beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait l'objet de mon reportage de fin d'études en école de journalisme, mais j'ai pas capté l'attention de toutes les rédactions de France, comme je l'espérais avec ce travail. Et donc, quelle ne fut pas ma joie quand j'ai appris que Max Monnehé, qui par ailleurs est une autrice de polar que j'aime beaucoup, évoquait largement le sort des Galgos dans son nouveau roman qui s'appelle Chien fou chez HarperCollins. Ça raconte l'histoire d'un avocat bordelais, Alano Garcia, qui a tout pour être heureux mais qui ne l'est pas. C'est un grand cynique, un grand désabusé, pas présent auprès de sa femme enceinte, pas sympathique, qui un jour est chargé de défendre un violeur en série que tout accable, un pauvre gars qui a laissé son ADN sur des scènes de viol absolument bestiales. Garcia accepte le dossier sans croire à l'innocence de son client. Mais quelque chose chez l'accusé touche en lui une corde sensible. Le client est un ancien enfant battu. Peu à peu, Garcia se forge une intime conviction et met tout en œuvre pour le défendre. Au fil du procès, il va renouer avec son humanité, retrouver en lui une part de tendresse enfouie. Mais est-ce qu'il a raison de défendre bec et ongle cet accusé ? Bien sûr, je ne vais pas vous le dire. Max Monnoé excelle dans la veine du polar juridique. Elle nous plonge à la perfection dans un procès d'assises. Et dans la psyché d'un avocat pénaliste chargé de défendre l'indéfendable, j'ai trouvé ça passionnant. Vous allez me demander quel est le rapport avec les Galgos. Eh bien, il faut savoir que le roman est
construit... Vous lisez dans mon âme.
Voilà, tout à fait, je lis en vous. Sur une alternance entre deux périodes, le procès du violeur et 4 ans plus tard, quand Alano se cache en Espagne, au milieu des Galgos, donc, pour essayer d'échapper à un mystérieux ennemi qui veut lui faire la peau. Et c'est dans cette partie espagnole que Max Monnoé aborde le sort des lévriers espagnols. Elle en fait une grille de lecture supplémentaire de l'âme humaine dans ce thriller très bien ficelé, très intelligent, qui interroge les thèmes de la cruauté, de la trahison, de la confiance, de la rédemption et qui plaide donc, en plus de tout le reste, la cause de ces beaux et nobles animaux que sont les Galgos. Ça s'appelle donc Chien fou de Max Monnoé chez HarperCollins.
Nina Allan avait aussi consacré un de ses romans les plus percutants à l'univers des courses de lévriers en Angleterre.
La grande Nina Allan.
Voilà, Nina Allan qui a eu donc là, tout récemment,
Médicis.
Le prix Médicis étranger, donc on est ravis pour elle, puisqu'elle a été notre invitée.
Pour de bons voisins, qui est fabuleux.
En début de saison, et donc pour les éditions Tristram, et en tout cas Galgos Forever. Vous avez un deuxième préconisation.
J'avais envie de recommander un roman
préconisation.
Noir. Préconisation, de préconiser un roman noir fulgurant, très en colère aussi, qui est publié au Mot et le Reste, une saison de colère de Sébastien Vidal, dont j'adore la plume. Ça se passe en Corrèze, petit village marqué par 2 tragédies sociales, une délocalisation d'usine et la destruction d'une forêt sur l'autel du profit. Il met en scène un ancien gendarme barreur de feu, un zadiste au passé mystérieux, une galeriste aux motivations sanglantes, des notables sinistres, une tueuse à gages guitariste et sentimental. Entre autres personnages émouvants ou révoltants, c'est un excellent roman d'atmosphère, très noir avec une belle intrigue, très intelligent aussi. C'est le genre de livre auquel on repense longtemps et avec le cœur lourd de sentiments après en avoir achevé la lecture. Une saison de colère de Sébastien Vidal au Mot et le Reste.
Très bien. Bah écoutez, moi je signale, je continue mes news, que Bertrand Mandicot, qu'on connaît et qu'on aime à oui. Mauvais genre, donc une grande exposition à Tarbes où nous fûmes, au parvis de Tarbes, une exposition de photographie, Si la nuit m'oublie, crever mes illusions, anti-cinéma. Exposition Bertrand Mandicot, c'est du 21 novembre au 17 janvier 2026, du mardi au samedi. Et puis je signale également cet hommage imposant et important, puisque l'homme l'a été aussi, à Jean de Palacio, récemment décédé, qui fut le plus grand historien français de la littérature fin de siècle et du décadentisme esthétique. Jean de Palacio a marqué des générations de chercheurs et l'une décadente aux éditions Les Âmes d'Atala, un imposant collectif, lui rend hommage. Merci Olivier Sieschelski d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre, donc pour ce livre des prodiges que je recommande. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Grégory Vallon, Claire Poissignon, Élise Lépine, Claire-Martin Dugard, Esther Teilhard, Fleur Hopkins, Lo Ferron et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine avec Arnaud Labelle-Rojoux pour son exposition au Macval. Bonsoir à tous.